bonjour à tous nos auditeurs. On est sur retour vers le cinéma avec donc c'est Lucas, avec moi Robin Doux.
Bonjour Lucas.
Yann Pascal.
Salut Lucas.
Et Clara Ambrosini.
Bonjour.
Je suis très content d'être là avec vous. Alors aujourd'hui, ça va être super. On va faire toujours notre nouvelle émission, le Qu'est-ce que t'as vu. Avec voilà les dernières après les il y aura les dernières actualités avec Yann, un petit débat sur le jeu vidéo au cinéma, et puis après on aura de la musique, du dessin animé, un petit débat sur l'animation, voilà, de la musique, des petits jeux, ça va être super fun. Restez bien à l'écoute.
Alors déjà, avant qu'on commence l'émission, Lucas, je te coupe. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est un jour assez spécial. Lucas en est témoin. Alors, c'est l'anniversaire
de
notre
présentateur.
C'est l'anniversaire de Lucas, donc je propose que tous les autres chroniqueurs, bon, on lui chante joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Joyeux anniversaire, Lucas. Joyeux anniversaire, Lucas.
À tes 17 ans.
Merci beaucoup. La performance vocale de Robin était Robin inédite grand... dans l'histoire.
Il faut appeler l'opéra là.
Je suis ténor à temps partiel et tout. Bon, bah. ça me fait rapporter 5 euros par semaine. Bon.
C'est déjà ça.
Oui, ça me fait un kebab par semaine, c'est bien.
Oh, ouais. C'est super sympa.
Franchement, un kebab, je
prends. Par contre, premier degré, je compte vraiment en kebab. tu vois, non, mais je suis sûr, quand je dépense de l'argent, je compte en kebab.
Mais comme tout le monde, moi je compte en place de cinéma, moi.
Voilà, on sent les vrais passionnés.
On sent le cinéphile.
Concentrons-nous sur le sujet.
Ouais, faudrait qu'on se concentre.
Oui, tout à fait, Clara. Alors, le Qu'est-ce que t'as vu ? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu un peu cette semaine, là, la semaine qui vient de s'écouler ? Donc, Robin, la parole est à toi.
Ouais, j'ai vu 8,5 de Fellini. C'est un film italien. C'est un gros classique du cinéma italien. C'est un film qui est sorti dans les années 60. Il est génial. Ça parle, en fait, d'un réalisateur qui est en train de faire un film. Et, en fait, tu vois un petit peu toute la galère que c'est d'être un réalisateur. En plus, le film aussi entre des moments de la vraie vie, des moments où est-ce qu'on est purement dans son imagination. Bref, le film est un immanquable, il est génial. Voilà, c'est une petite chronique, mais tout ça pour dire que 8,5, c'est vraiment super et c'est toujours d'actualité. Genre vraiment, le film n'a pas vieilli, c'est génial et c'est disponible sur la plateforme Mubi. Voilà, un jour j'en parlerai, c'est une plateforme géniale, il n'y a pas que Netflix, il n'y a pas que Prime. Donc voilà, 8,5 de Fellini, c'est un classique absolu, il faut le voir.
Et petite anecdote sur ce film aussi, il s'appelle 8,5 parce que c'est le 8e film de Fellini, je crois.
D'accord.
3,5.
Bah alors ça je sais pas, mais il paraît que c'est un film assez
Si aussi, pardon, excuse-moi, je prends un petit peu de temps. Et c'est en voyant ce film que tu te rends compte que Tarantino a fait une allusion à ce film dans Pulp Fiction. La scène de danse de Pulp Fiction est tirée de la scène de danse de 8,5.
Mais non.
Ah oui.
Et ouais. Si même si lui dit que c'est bande à part de Godard qui l'a inspiré, bah non, désolé mec, c'est vraiment 8,5.
Sur la scène dans le café ?
Exactement, ouais, oui, c'est exactement les mêmes pas
on
de danse.
Vu, hein.
Ouais, on l'a vu. Déjà nous cette scène on l'a analysée en cinéma.
De 8,5 du coup ou de Pulp Fiction ?
Non, de Pulp Fiction.
Et ben là vous pourrez dire mais c'est
de cinéma.
Voilà, donc pour se la péter, c'est assez efficace. Voilà.
C'est vraiment ça, tu le cales dans une discussion, t'es au sommet.
20 sur 20, tu remplaces le prof.
Ah bah... Yann, est-ce que tu peux nous parler d'un film que t'as vu récemment
que t'as vu ?
Alors, moi, ça va faire très faillot. J'ai vu le dernier film de Cédric Lapiche, encore.
Ok,
alors,
voilà, qu'on avait chroniqué dans notre
qu'on
précédente
avait chroniqué
émission.
Précédemment. Et il y avait une avant-première au cinéma CGR de le multiplex de Montauban. Et il y avait plein de danseuses du conservatoire. Ouh. Donc j'ai trouvé ça excellent. C'était vraiment un super moment que j'ai passé. Le film est très très bon, mais bon, je vais pas revenir dessus. Et voilà, c'était un excellent moment. Et grande dédicace à toutes les danseuses du conservatoire, parce qu'elles sont vraiment très talentueuses.
Y a une petite dédicace à ta sœur, du coup.
Ouais, voilà, non, ma sœur n'était pas dedans. Ma sœur n'a pas dansé à ce moment-là.
Mais on lui fait quand même une dédicace. Attention. Aline Pascal,
Lucas,
si tu écoutes.
On peut faire une dédicace à notre amie en commun, à Lou, qui dansait, elle, à ce moment-là.
Lou Lozano. Alors, Lou, si tu nous entends, eh ben, on t'adore dans le studio. Tu es notre reine.
C'est franchement grande artiste. Grande artiste à venir.
Clara, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai envie de te dire.
Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, j'ai vu Kill Bill de Tarantino. Je l'avais déjà vu et je l'ai revu très récemment. Et bah.
Lequel ? Le volume 1, 2 ou
les deux ?
Okay. Les deux.
Je me suis fait les deux.
T'as du temps à perdre. Franchement, voilà. Quel film ? Quel film ?
Ouais, franchement, j'ai adoré le revoir. Le son, la toudou. Non, c'était
vrai,
c'était très mal.
Comme tu dis Kill Bill, c'est exactement le premier truc qui me vient.
Mais franchement, si, c'est la musique, c'est
oui. Non,
qui tient le danger.
C'est juste le tout doux là, comme ça.
Avec les épées,
ça fait un peu la musique de Netflix.
Franchement, j'ai adoré Tarantino, quoi.
Bah oui, ça faisait vraiment genre très réalisateur.
Franchement, Clara, tu peux nous refaire ton imitation une dernière fois?
Toudoum.
Refais encore.
Toudoum.
C'est exactement la même.
Oh là là,
je pense pas
Yann,
exactement
Yann,
exactement,
c'est exactement la même.
Tu nous régales de jour en jour.
Ah
Yann.
Bah, je commence à apprendre la technique. Hein,
et c'est, pourtant, c'est tu n'es pas cuisinier. C'est ce qu'on appelle un
Toudoum. Allez, on enchaîne. Alors moi, je vais vous parler très rapidement de. Du coup, je vous avais parlé de True Detective la semaine dernière et j'ai continué sur McConaughey, l'univers McConaughey avec Interstellar, Mud, Dazed and Confused de Linklater, son premier film avec le fameux putain, oui. Alright, alright,
alright. Alright, alright.
Voilà, et donc voilà, sacré acteur, charisme fou. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que sinon, on n'en est pas sorti, voilà.
Et Matthew McConaughey qui fait une excellente transition avec notre prochaine chronique parce que Matthew McConaughey a été confirmé pour le film de Christopher Nolan. Il y a un casting assez grand dedans, avec notamment Robert Downey Jr. et plein d'autres grands acteurs. Alors au cinéma,
Oppenheimer là, son nouveau.
Ouais, qui arrive, ça va être un super film. Alors au cinéma, le 6 avril 2022, donc au moment où vous écoutez cette émission, il y aura Abuela, le dernier film de Paco Plaza, qui parle de Susana, qui est un jeune mannequin espagnol. On ne va pas s'étaler là-dessus. On aura aussi un nouveau film de l'humoriste à talent Jonathan Cohen qui s'appelle En même temps, qui sort lui aussi le 6 avril 2022
de
au cinéma.
De Kervernet et Delépine, oh là là, quel
c'est
film.
C'est vraiment, ce film, il va être hilarant. Je
le... l'avez déjà vu?
Non, mais, non. Mais les réalisateurs sont incroyables, et Jonathan Cohen est incroyable. Et Vincent Mackaigne aussi.
Ah, Vincent Mackaigne,
j'adore. Il va être incroyable, ce film, franchement. Puis après, on a un autre film, un film d'animation de Studio DreamWorks, Les Bad Guys, avec Pierre Niney en doublage. Alors, je sais que Robin l'aime pas trop, ce film, surtout par rapport à Pierre Niney.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans la bande-annonce d'origine, c'était Damien Boiseau, donc un comédien qui est habitué dans le doublage, qui doublait le renard. Et finalement, ça a été remplacé par Pierre Niney. Pierre Niney est très bon dans le doublage. Mais Damien Boiseau, c'est la VF de Edward Norton, de Matt Damon, il me semble. J'adore ce comédien. Donc, voilà. Mais après, non, le film, s'il faut, il est génial. Hein, je l'ai pas encore vu, attention. Je parle juste par rapport au doublage.
Et du coup, à l'occasion de la sortie du film, on écoute tout de suite Bad Guy de Billie Eilish, qui est la bande originale du film. Merci de nous écouter sur CFM.
said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Let's go.
I'm a bad guy.
Damn right.
Vous êtes toujours dans Retour vers le cinéma avec Robin, Clara et Lucas. On enchaîne tout de suite avec un petit jeu des critiques par Clara.
Je vais rappeler le concept. J'arrive absolument pas avec ce mot. Le concept, donc, je vous lis une critique et vous devez deviner le film. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? C'est parti!
Let's go!
Alors, je vais vous lire une critique d'un film qui est sorti l'année dernière au cinéma et qui a été beaucoup critiqué. Vraiment pas terrible. Il y a quelques belles scènes, les joueurs jouent plutôt bien, mais ce qui plante tout, c'est cette intrigue à deux balles. Leur ennemi, c'est n'importe quoi, la menace à combattre aussi. Et puis aussi, l'ultra-violence, ultra-gore à foison inutile. Pour conclure, j'ai peiné à rester jusqu'au bout du film, ça faisait passer le temps, et encore, mais c'est pas divertissant. J'avais adoré le premier volet, mais ça avait de la gueule, c'était cohérent. Là, ça ne vaut pas le coup de payer sa place de cinéma.
Alors si c'est le film auquel je pense, je ne comprends pas comment il peut dire qu'il a préféré le premier volet. Je dirais The Suicide Squad.
Ouais, moi aussi en vrai. Je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à Deadpool, le côté gore. Mais
il n'est pas sorti l'année dernière.
Il n'est pas sorti l'année dernière, il est sorti
un
moment.
Ouais, Suicide Squad.
Ouais, Suicide Squad.
Mais s'il est sorti l'année dernière.
De quoi?
Deadpool, ah mais je
vois. Oui,
je me suis trompé dans mes mots. Je voulais dire Deadpool.
Comment tu peux préférer le premier? C'est le pire film du DC.
Franchement, il est horrible ce film, le premier.
D'ailleurs, j'aurais dit qu'il joue dans le pire film de DCU et le pire film Marvel avec Morbius.
Vous avez préféré le deuxième?
Évidemment.
Mais bien sûr, je préfère le deuxième.
Tout le monde qu'au premier.
Franchement, je pense que
et c'est assez rare pour être souligné qu'une suite soit meilleure que l'original.
Ouais, c'est vraiment.
Déjà, c'est pas si rare que ça. Et quand tu vois la qualité du 1, bon bah forcément.
Tu peux pas faire pire, franchement.
Oui, voilà, surtout si tu mets James Gunn.
Allez, la deuxième.
La deuxième, vous êtes prêts?
On va se rattraper.
Alors, c'est aussi un film qui est sorti récemment. J'ai pas pris cette fois-ci de film. Enfin, bon, bref.
Merci, Clara.
Moi qui adorais jusqu'à présent les interprétations de DiCaprio, je suis profondément déçue de ce navet inclassable et qui en fait tout sauf une œuvre de génie. Scènes incohérentes, personnages tellement caricaturaux qu'on se demande s'il faut en rire ou en pleurer. Américainocentrisme tellement surfait, je ne vois rien à sauver dans cette daube digne d'un téléfilm à bas budget.
Le Wall Street?
Je l'ai, Don't Look Up.
Don't Look Up.
Don't Look Up.
Ah merde, allez. C'est sorti l'année dernière, d'accord, ok.
Donc Look Up, alors franchement, c'est un super film.
Franchement,
je suis vraiment pas du tout d'accord. Moi, je me suis arrêté aux 45 premières minutes. Faudrait peut-être que je finisse.
Très, très bon film.
Moi, franchement, je l'ai trouvé assez beau dans son message, surtout.
Oui, voilà, dans le message. Message. Puis, une approche assez originale aussi, avec... voilà, c'est un film
en fait,
qui est assez original au niveau du montage.
Ça mélange humour, enfin, comédie, on va dire.
Ouais, ça,
même
c'est...
un peu comédie noire. Comédie.
Oui, voilà, c'est clairement comédie noire. C'est une critique de notre société actuelle.
Et puis, franchement, le casting, il est incroyable. Le casting...
Et DiCaprio.
DiCaprio, il y a Timothée Chalamet, il y a Ariana Grande, il y a plein de monde. Donc, franchement, excellent casting.
Bon, on va ouvrir maintenant un débat, une discussion sur les jeux vidéo au cinéma. Yann, est-ce que tu peux lancer un peu ce débat?
Alors, les jeux vidéo, ça fait des années, depuis à peu près les années 80, qu'ils sont dans la culture populaire. On a plein d'œuvres majeures de jeux vidéo qui ont appris du cinéma, avec notamment des jeux comme Death Stranding, ou même des jeux comme la licence Zelda qui a su se réinventer en s'inspirant du cinéma. Sauf qu'on voit qu'en ce moment, dans le cinéma, on emprunte certains codes des jeux vidéo, et ça peut fonctionner très bien. Mais aussi, certaines adaptations de jeux vidéo sont très peu qualitatives. Je pense notamment au Sonic et à Assassin's Creed. D'ailleurs, Sonic 2 qui est au cinéma en ce moment. Donc on est un peu toujours dans l'actualité. Je le déconseille.
Tu l'as vu, Sonic 2 ?
Je le déconseille.
J'ai vu le 1, c'est un des pires films que j'ai vu.
Honnêtement,
franchement, nul. Honnêtement. Rien. Donc voilà, les jeux vidéo, moi je trouve qu'ils sont trop sous-représentés dans le milieu du 7e art parce qu'il y a un vrai lien qu'on peut faire ensemble. Donc je pense notamment à Ready Player One. Est-ce que les gens, tout le monde a vu Ready Player One ici ?
Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
Ouais, bon. Après, presque tout le monde.
Après, tu vois, si tu me permets, Ready Player One, ça parle de jeux vidéo, mais c'est pas ce dont veut parler Spielberg. Le sous-texte, quand même, ça parle principalement de la création
et
du lien entre son créateur et les gens qui consomment ou qui regardent en fait cette création. Et surtout que Ready Player One, c'est Spielberg qui fait un retour sur ses œuvres en disant bon voilà, je vous ai donné plein d'œuvres, faites-en bon usage et donnez pas ça à des gens qui veulent que des intérêts mercantiles. Donnez ça à des gens qui apprécient au sens pur la création.
Oui, aussi, mais ça c'est Ready Player One. Mais après, les jeux vidéo, ils prennent beaucoup de codes du cinéma et inversement. Moi, je pense notamment aux cinématiques dans les jeux vidéo qui sont de plus en plus poussés. Oui, Lucas ?
Bah ouais, maintenant, quand on voit même au niveau du réalisme, et puis même maintenant, ce qu'ils font carrément dans les jeux vidéo, c'est qu'ils prennent des acteurs connus qui, sous forme d'hologramme, en fait, qui le mettent virtuel, qui les mettent virtuellement dans les jeux vidéo, en fait.
Oui, FIFA.
FIFA, par exemple, c'est des joueurs de foot, mais disons qu'ils font pareil avec les acteurs.
Non, je crois que ce que veut dire Lucas, c'est les gens qui font de la performance capture. Sauf parce que tu prends des acteurs, tu leur donnes des trucs, comme par exemple l'avait fait Elliot Page, c'est le seul qui me vient en tête.
Avatar. Avatar, ils ont fait ça.
Avatar, oui, non, mais ça, oui, du coup, oui, c'est de la performance capture pour le cinéma et le jeu vidéo s'en est servi aussi. Bah, du coup, voilà, mais.
C'est pas des caméras qu'on place sur le
corps. C'est pas le capteur que t'as sur toi et après, tu peux recréer le squelette de la personne en 3D. D'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine chronique.
Et pour Marsupilami.
Marsupilami.
Le Marsupilami, oui.
Bon, c'était mieux.
Bah, c'est un vieux truc, ça. Mais du coup, oui, les jeux vidéo. Après, on peut voir que même au cinéma, on s'inspire de codes du jeu vidéo. Avec, par exemple, moi, je pense à 1917. Je sais que Robin n'est pas trop d'accord avec ça. Dans 1917, le point de vue FPS, moi, ça m'a fait forcément penser à des jeux vidéo.
Ça fait énormément penser aux jeux vidéo.
À tous les jeux de guerre, donc Call of Duty, Battlefield, etc.
Effectivement, j'ai fait des recherches, comme vous en avez parlé, vous n'êtes pas les seuls. Moi, j'aurais du mal à l'associer à du jeu vidéo juste parce que c'est un plan séquence, parce qu'à ce niveau-là, il y a plein de films qui pourraient être tirés du jeu vidéo. Là où, par exemple, il y a un film qui cite le jeu vidéo de manière un petit peu implicite, c'est Old Boy dans sa scène du marteau,
oui.
Qui est un petit peu qui est une référence au beat'em up dans sa manière de le plan, le travelling latéral, la manière dont c'est tourné, ça fait référence au beat'em up.
Et le beat'em up, tu peux nous expliquer ce que c'est?
Le beat'em up, en fait, c'est quand tu es, bah, c'est les scènes de, c'est les jeux de combat d'arcade.
Ouais. Ah oui,
parce
voilà.
En fait, ça se déplace. Tu vas de la droite vers la gauche. Enfin, de la gauche vers la droite, tu combats plein d'ennemis. Et ben, Old Boy, c'est exactement pareil. Ouais, la manière dont c'est tourné, c'est un seul plan, c'est du beat'em up, c'est une référence à ça. Mais ça nous permet d'être mieux immergé dans la scène d'action. Ça cite le jeu vidéo sans que ça soit trop explicite. Voilà, ça, c'est une bonne utilisation du jeu vidéo.
Et en parlant aussi de Park Chan-wook, donc tout ce cinéma un peu asiatique, on peut aussi dire que le jeu vidéo Fortnite, donc qui cartonne, un des jeux vidéo voilà les plus joués.
C'est le jeu vidéo
le
qui a rapporté le plus d'argent. Voilà. C'est le jeu vidéo qui a compté le plus de joueurs ensemble en même temps en ligne.
Eh ben il est inspiré d'un film en fait qui s'appelle Battle Royale.
Oui, qui était à la base un livre et qui a été un manga et qui est fini en
voilà.
Film.
Donc ça, je pense, que c'est assez évocateur aussi.
Donc voilà, en conclusion, les jeux vidéo c'est bien, le cinéma aussi. Quand il y a une adéquation des deux, c'est le top.
Je suis pas d'accord, mais c'est parce que je suis la seule fille.
Pourquoi tu es pas d'accord?
Je ne joue pas aux jeux vidéo.
Oh, et je joue quasiment jamais. Mais... Ouais, le jeu vidéo auquel je joue le plus, c'est Mario Kart.
Mais c'est le meilleur en même temps.
Moi,
je trouve que c'est deux mondes totalement différents.
Moi, je trouve que en soi, c'est deux mondes totalement différents, mais chacun a su apprendre de l'autre pour s'améliorer.
Peut-être, mais de par le graphisme. Mais je trouve que c'est plutôt les jeux vidéo qui s'inspirent du cinéma. Enfin bon.
Tu nous parlais de Ready Player One, il n'y a pas une petite musique dans Ready Player One?
Oui, excellent. Bah, je voulais faire la transition, mais on a eu notre deuxième polémiste qui s'est incrustée. Elle sourit, elle est contente. Et du coup, bah, on va écouter Jump de Valanelle. Merci beaucoup de nous écouter sur CFM. We'll be right back.
Quelle Jump musique. De Van Halen, du coup.
Quelle musique, quelle musique.
Ah, super musique.
Quelle musique, quel son. Pour quel film.
Pour quel film, Ready Player One.
Meilleur blockbuster de ces dernières années avec Matrix 4.
Batman.
Ah, pardon, dedans. Pardon, ah, j'ai éternué. Blade Runner 2049. Ah, quoi, pardon.
Moi, je... Oui, aussi.
tu feras attention à ta canne de tout, Yann.
Ah, quoi.
Mais on n'est pas ici pour parler de maladie, on est ici pour s'évader, et notamment grâce au film d'animation, Robin. La parole est à toi.
Ouais, je sais pas si vous avez regardé les Oscars, alors pour vous ça doit faire depuis plus d'une semaine, mais lors, bon, il n'y a pas eu que la gifle de Will Smith, même si tout le monde a parlé de ça, il y a eu d'autres choses, et notamment lors de la remise de l'Oscar du meilleur film d'animation, il y a une phrase qui a été dite et qui a fait un peu tiquer les gens, je vais vous la dire. L'animation est appréciée des enfants et endurée par les adultes. Bah non, en fait, Miyazaki a dit « Oh bah pas ouf la phrase ». Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que l'animation n'est réservée qu'aux enfants? Alors avant de répondre à cette question, je vais juste donner deux trucs. Déjà, l'animation, c'est pas un genre, c'est un médium. L'animation, ça va pas déterminer quel genre de film ça va être, ça va juste déterminer la manière de le faire.
Oui, ça je suis assez d'accord, parce que tu peux pas classer un film, tu peux pas classer Le Laboratoire Dexter et Paprika dans le même...
Exactement, il y a différents genres dans l'animation. C'est un médium, c'est un moyen de s'exprimer, mais c'est pas limité. Donc voilà, pourquoi on considère que c'est pour les enfants? Donc je vais pas rentrer dans les détails, même si ça me plairait. Faut juste considérer que dans les années 30, il y a eu une loi aux États-Unis qui a censuré la moralité, qui a dit on va pas parler de sexe, pas de morale et tout, et que les premiers qui en ont subi ça, ce sont les dessins animés. Et donc après, à partir de là, ensuite avec le merchandising dans les séries des années 80 qui a été faite exclusivement pour les jouets, on a considéré que la série d'animation, l'animation en général, c'était pour les enfants. Mais il faut se détacher de ça et on va essayer d'utiliser plusieurs arguments pour dire pourquoi l'animation n'est pas exclusive aux enfants.
Moi déjà, oui, j'en ai un, c'est que oui, l'animation, c'est pas que pour les enfants, même s'il y a des choses qui sont faites pour les enfants, les séries à la télé, etc., c'est fait pour les enfants, on va pas se mentir. Mais après, plein de films, moi je pense aux films de Disney, pas de Disney Pixar, juste de Disney par exemple, on peut aborder des sujets très lourds avec le médium, qui plaisent plus aux parents, qui seront plus sensibles aux parents.
Ça permet de faire passer des messages et c'est moins pris au sérieux, si je puis dire, et c'est moins condamné, on va dire, par la société, je trouve.
Et puis aussi, pourquoi c'est fait pour les enfants dans notre imaginaire collectif, c'est que aussi, je pense, avant, quand il n'y avait pas trop d'effets spéciaux, ça me permettait une féerie, une certaine imagination, un monde imaginaire, alors que maintenant, bon, avec les effets spéciaux, on peut créer ça dans des films, mais je pense que ça aussi, ça plaisait aux enfants.
Ça a contribué.
Oui, ça y est contribué. D'ailleurs, en parlant d'effets spéciaux, maintenant, par exemple, si on va parler du film Le Roi Lion, celui de 2019, même si Disney a dit que c'était un film live, bah pas du tout, ça reste un film d'animation, de l'animation supra-réaliste, mais ça reste un film d'animation. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que l'animation, maintenant, elle peut servir d'effet de mise en scène. Tout à l'heure, tu avais parlé de Richard Linklater. Lui, il s'est servi de ça pour la rotoscopie. La rotoscopie, c'est tu filmes et après tu dessines par derrière. Et ça permet de faire des choses que la caméra ne peut pas faire. Là, par exemple, dans Richard Linklater, montrer des effets de la drogue. Il y a aussi un autre film que j'adore qui s'appelle La Passion Van Gogh, c'est reprendre les peintures de Van Gogh par l'animation.
Oui,
par
et surtout que
dans et ça, la caméra ne peut jamais le faire. Oui.
Dans La Passion Van Gogh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà la mise en scène qui est que tout le temps comme une peinture de Van Gogh. Et ça, c'est franchement La Passion Van Gogh. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est
exactement. Il est sur Netflix d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire que l'animation.
On ira checker ça.
Il y a des films qui sont obligés de passer par l'animation et pas par la caméra. Et peu importe pour parler aux enfants, aux adultes, en parlant de caméra. Steven Spielberg ou Robert Zemeckis s'affranchissent de la caméra quand ils passent à l'animation. On a le film Tintin, on a le Pôle Express, Beowulf qui est génial, ou encore le Drôle Noël de Scrooge. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de réalisateurs qui sont passés par l'animation pour s'affranchir de la caméra.
Bah, même là, on parlait de Kill Bill, mais dans Kill Bill 1, il y a un sacré moment d'animation.
Ah oui,
ouais, quand
oui,
même,
oui.
Il fait plusieurs longues minutes. Hein.
Bah, il est génial, et ça permet aussi pas mal de choses au récit.
Tarantino voulait par l'animation parce qu'il dit il n'y a pas meilleur que l'animation pour
et
faire ce passage.
Il voulait pas exact. Rajouter plus d'animation.
Alors ça, j'en sais pas plus.
Il me semble qu'il voulait en rajouter un peu plus, mais sa boîte de production a dit bah non. Voilà. Ça et fait justement, c'est ce qui il me semble, c'est ce qui j'ai vu une interview ou une émission, je sais plus trop ce que c'était, où il disait je veux mettre plus d'animation. Ils ont fait bah non, ça fait trop gamin.
Alors ouais bon, quand tu vois l'animation de Kill Bill, elle est assez trash.
Allez, oui, voilà, quoi.
Oui, mais ils ont dit le dessin animé, si c'est trop long, ça va faire gamin justement.
Ouais. Surtout que c'est compliqué à faire. Enfin, c'est hyper chronophage. Pour en avoir fait du dessin animé, c'est super long. Puis même, si on parle un petit peu des retours critiques, il y a des films qui sont considérés comme les plus grands films de tous les temps, comme Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Into the Spider-Verse, Le Tombeau des Lucioles, Le Roi Lion. Donc, je veux dire, même au niveau de la presse, il y a des films qui sont lourds, enfin, qui vraiment touchent les gens. Et enfin, dernier argument, il y a des films qui sont spécialement pour les adultes. Je sais pas si vous avez des exemples en tête. Moi, je pense à un de mes films préférés, Valse avec Bachir. Qui est un film, qui est un documentaire
sur déjà, qui est assez lourd,
la guerre d'Irak, il me semble.
Si c'est un film pour les enfants, pourquoi tu l'as regardé?
Alors, vraiment, je te jure, ce film m'a fait pleurer déjà, et ce film m'a traumatisé. D'ailleurs, la musique, on aura une musique à la fin qui sera dans ce film.
Sensible à
Mais bah, vraiment, moi, je sais que c'est un film exclusivement pour les adultes. Oui.
Moi, je sais que même un film qui était fait pour les enfants, mais qui peut tuer la morale d'un adulte. Moi, j'avais vu un film qui s'appelle Maman est en Amazonie, et ça parle d'un jeune homme qui pense que sa mère est juste partie en voyage et reçoit des lettres quotidiennement. Ouais. Et un jour, on va lui apprendre, c'est un court-métrage, donc c'est pas un grand film, je peux me permettre de spoiler.
Non, mais t'inquiète. Hein.
Et un jour, il va apprendre que la personne qui écrit toutes ces lettres n'est en réalité pas sa mère, et son père qui veut lui cacher le décès de sa mère. Et toute la mise en scène, toute l'histoire tourne autour de ces fameuses lettres. Et moi, ce film, je l'ai vu, mais ça m'a anéanti.
Bah, pour un enfant, je pense que ça peut être très, très violent.
Pour un enfant, c'est assez violent. Je suis même pas sûr de pouvoir montrer. Moi, si j'ai un fils ou une fille, je lui montre pas ça. Il va avoir peur de voir maman partir au travail.
En parlant de ça, je vais citer un dernier exemple, Le Bossu de Notre-Dame. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quand vous étiez gosse. Frodo. C'est, désolé, je vais être vulgaire, c'est un connard absolu ce type.
Attention à la vulgarité.
Non, mais je suis désolé, quand t'es gosse, tu peux pas comprendre à quel point cet homme, c'est un pervers, c'est un manipulateur, c'est un raciste. Enfin, il a toutes les pires qualités possibles. Bref, voilà, tout ça pour dire que l'animation n'est pas exclusive aux enfants. J'espère que si vous le pensiez, ben, que ces différents arguments vous les ont fait changer d'avis.
Et juste, si je peux me permettre, il y a des films qui mélangent les deux. Et je trouve ça très intéressant.
Exactement.
Kill Bill, comme on parlait, mais d'autres. Des films qui mélangent les deux.
Les films Disney.
Et carrément, maintenant, plus récemment, les Pixar. Pixar, c'est un enchantement pour... C'est un modèle pour toute une génération. Déjà, moi, j'ai grandi avec les Pixar. Là-haut, plus récemment, Soul, mais Coco aussi, c'est des films
j'ai grandi avec Toy Story. Hein.
Là-haut et Toy Story 3, qui d'ailleurs sont deux des trois films d'animation qui ont concuré sur... meilleur film aux Oscars.
Sérieux ? En quelle année ?
Du coup, 2009 et 2010. Et après, l'ancien film, c'était La Belle et la Bête en 93, c'est mes souvenirs.
En fait, il n'y a eu que trois films. Tous ces films, ils ont tellement un message fort. Parce que moi, là-haut, c'est...
Il y a une morale très forte,
en fait.
Une
morale qui est extrêmement forte.
Autant pour les adultes que pour les enfants.
Moi, je sais pas si j'arriverai à comprendre. Moi, quand j'étais petit, quand je voyais là-haut, c'était juste un monsieur, il n'est pas content, il veut partir sur une falaise. Aujourd'hui, quand je revois, c'est un vrai cycle poétique. C'est vraiment... tous ces films ne sont pas faits que pour les enfants. Il y a une partie qui est faite pour les enfants, pour plaire aux enfants.
Exact.
Dans la forme, oui.
Mais le fond est adulte.
Le fond est adulte. Puis même,
après, on va se mentir, la patte patrouille, voilà, c'est pas pour les adultes, on va pas se mentir.
On n'aura pas la science infuse après un épisode du laboratoire de Dexter. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir.
Bon, du coup, tu nous parlais de Valse avec Bachir. On va se quitter avec une petite musique de ce film. Merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude. On revient mercredi prochain.
Et attendez, avant qu'on se quitte vraiment, est-ce qu'on rechanterait pas un petit joyeux anniversaire à Lucas ?
Parce qu'on est un petit peu en retard, peut-être, non ?
Oui, peut-être.
un petit couplet, quand même.
Joyeux anniversaire,
Lucas, allez, on envoie.
Allez, salut à tous, merci de nous avoir écoutés.
Et n'oubliez pas de me retrouver sur scène vendredi dernier.
Ah oui, vendredi dernier. Donc, si vous savez voyager dans le temps, voilà, ça peut être sympa d'aller voir Clara. Allez, gros bisous à vous.